Heure de l'info sur VOA Afrique.
Le magazine Femina de VOA Afrique.
Si seulement je pouvais envoyer ma fille à l'école. La famille,
chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge avec vous. Éducation sexuelle et santé reproductive des adolescents, ou tout simplement la santé sexuelle des adolescents. Ce sera l'objet de notre discussion, à savoir si ce type d'éducation est indispensable à l'école, et si oui, sous quelle forme, selon les âges, les genres, les cultures. Pour en discuter, une invitée ici à Washington, Nicole Cheatham, directrice de la Division internationale des droits et de la santé des jeunes à Advocates for Youth, dans la capitale américaine. Bonjour madame et merci d'être avec nous.
Bonjour Nathalie, merci beaucoup.
Alors avec nous dans le studio également, ma collègue Isha Groover. Bonjour Isha et merci Bonjour. D'être ici également. Alors, Advocates for Youth, je le précise, crée des programmes et soutient des politiques qui aident les jeunes à prendre des décisions informées et responsables sur leur santé sexuelle. Alors, le mot éducation est généralement rassurant. En revanche, le mot sexuel a plutôt tendance à effrayer une grande majorité de parents à travers le monde quand il s'agit d'informer les enfants. Alors, mais justement, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend par éducation sexuelle, voire même santé sexuelle, en ce qui concerne les préadolescents et adolescents? Et vous, vous parlez de droit à la santé sexuelle, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'est justement, en effet, que le mot, disons, éducation sexuelle, souvent, fait peur aux parents, aux adultes, aux enseignants même. Mais il s'agit de beaucoup de choses. Premièrement, bien sûr, il s'agit d'éduquer, de donner, d'informer les jeunes pour renforcer leur connaissance sur la santé et la reproduction. Donc, des informations scientifiques précises, mais aussi adaptées à l'âge pour que les jeunes puissent comprendre leur anatomie reproductive, comment prévenir les grossesses non désirées, comment se transmettent les infections sexuellement transmissibles, par exemple. Mais en plus, l'éducation sexuelle aussi aborde beaucoup de compétences de vie. C'est aussi des compétences de communication, de négociation, de prise de décision. Donc, pouvoir gérer sa vie sexuelle, c'est beaucoup plus que juste les connaissances, c'est aussi des compétences. Des compétences et aussi la capacité de examiner ses propres valeurs et de pouvoir les communiquer aux autres. Donc c'est beaucoup de choses.
Alors madame Cheatham, avant de continuer, Isha Groover va nous présenter sa recherche sur la question.
Parole de femme.
On vous écoute, Isha.
Et bonjour. Alors, l'éducation sexuelle des adolescents en Afrique permet de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelle. Plusieurs efforts ont été fournis pour mieux informer les jeunes africains, mais la polémique sur ce qui est approprié pour les enfants à des âges différents freine les efforts.
Alors, vous avez retenu l'exemple du Nigeria.
Oui, et il faut savoir que l'éducation sexuelle au Nigeria est obligatoire pour les collégiens depuis 1999. Mais des associations, des parents, des élèves, les églises et d'autres entités religieuses et même des membres du gouvernement ont été choqués par ce qu'on apprend aux enfants. Et donc la question s'est posée de savoir quand peut-on parler des questions purement sexuelles aux enfants et de quelle manière, sachant qu'il ne faut pas effrayer les préadolescents ou leur mettre dans la tête des idées inappropriées.
Il est cependant nécessaire, comme l'a dit Madame Cheatham, de les informer justement pour les protéger et leur apprendre à se protéger, n'est-ce pas Isha?
Absolument. Et ici, on a pris le Nigeria comme exemple, car c'est un des pays où on a le plus d'informations en matière d'éducation sexuelle à l'école, selon un rapport de l'UNESCO. Donc, par la suite, un nouveau programme a été mis en place. Il s'intitule « Vie familiale et éducation au VIH ». Il met l'accent sur l'abstinence pour éviter les MST et les grossesses précoces. Mais il faut savoir que ce pays a le deuxième taux de les plus élevés d'infection au VIH en Afrique après l'Afrique du Sud. Autre exemple, au Rwanda, en février 2014, le gouvernement annonçait son intention de rendre obligatoire l'éducation sexuelle au collège et au lycée en 2015, dans le cadre des efforts contre les grossesses chez les adolescentes.
Et alors, qu'en est-il aux États-Unis, Isha?
Ici, aux États-Unis, nous constatons des barrières similaires contre l'éducation sexuelle effective. Elles varient d'un État à un autre. L'éducation sexuelle dans les écoles publiques n'est obligatoire que dans 22 États. De plus, plusieurs de ces États n'enseignent que l'abstinence. Il y a moins de maladies aux États-Unis, mais nous avons le taux de grossesse à l'adolescence le plus élevé du monde industrialisé, selon le département américain de la santé et des services sociaux. Il est donc évident que le système aux États-Unis n'est pas parfait non plus. Et enfin, on peut dire qu'une des plus graves conséquences pour les filles du manque d'éducation sexuelle pragmatique à l'école, c'est le taux d'avortement. En 2010, 30% des adolescents enceintes aux États-Unis ont eu recours à l'avortement.
Avec, on l'imagine, un nombre élevé de grossesses indésirées également dans les 70 autres pourcents, hein, car nous parlons ici d'adolescentes, ne l'oublions pas. Merci beaucoup, Isha. Alors, les avortements, c'est la question aussi. Hein, cette éducation sexuelle, elle permet aussi de prévenir, notamment. Alors, dans cette éducation sexuelle, on a fait des recherches, effectivement. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, c'est on a le cycle primaire, scolaire, le cycle secondaire, ce qu'on appelle middle school ici aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez, déjà donner votre réaction sur ce que vient de présenter Isha, et puis nous dresser un plan de la situation aussi aux États-Unis. Vous, comment vous voyez cette situation-là et comment vous la gérez, d'ailleurs, hein, c'est votre profession.
Oui, bien sûr. Donc oui, en réactionnant à ce que Isha vient de partager, en effet, oui, l'exemple de Nigeria est très intéressant, parce que quand même il y a une évaluation qui a été faite et ça fait des années maintenant qu'ils travaillent beaucoup pour réaliser une bonne éducation sexuelle au niveau national. Alors chez eux aussi, comme aux États-Unis même, il y a le défi de les États, parce qu'au Nigeria aussi un défi, c'est que on a le curriculum, mais pour que ça soit acceptable, ils ont dû laisser que les États adaptent, n'est-ce pas, au niveau de l'État, ce qu'ils vont enseigner. Oui, c'est la même chose. Et aux États-Unis, en effet, c'est par État que ça se réalise. Il y a des standards d'éducation sexuelle au niveau national, mais ce sont que des standards que si on veut les utiliser, on peut les utiliser.
Mais cela veut dire quand même que dans la plupart des écoles publiques, il y a tout de même une éducation sexuelle à l'école, non?
C'est pas forcément le cas. Pas du tout forcément.
Vous avez donc des écoles publiques aux États-Unis qui n'ont absolument aucun type d'information sur l'éducation sexuelle.
Et ainsi, le taux des grossesses non désirées, là, qui est très haut chez les États-Unis.
Est-ce qu'on arrive à recouper les statistiques par rapport à ce que ça correspond à ces États où il n'y a pas d'éducation sexuelle, que l'on a le plus peut-être de grossesses ou indésirées d'adolescence?
Ce qu'on arrive à regarder, si on regarde les études qui ont été faites aux États-Unis, on voit que les programmes, là, au niveau scolaire qui donne une éducation sexuelle complète, disons intégrale, ont de meilleurs résultats que l'éducation de seulement abstinence, par exemple. Parce que aussi aux États-Unis, c'est influencé par le financement qui vient du niveau fédéral. Il y a du financement qui est seulement pour les programmes qui ne parlent que de l'abstinence et du financement qui permettent que les écoles donne une éducation qui comprend l'abstinence, mais aussi donne des informations sur la contraception, sur la prévention des grossesses, etc.
Mais alors justement, ce qui est intéressant ici, c'est que même Advocate for Youth, il faut préciser quand même, dites-moi si je me trompe, vous mettez l'accent, je l'ai lu sur votre site web, la priorité c'est tout de même l'abstinence, parce qu'encore une fois, on s'adresse à des enfants, on a l'habitude de dire adolescent, préadolescent, on parle des âges très 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 jeunes, et justement je vais me tourner vers ma collègue Isha, qui en fait a 24 ans, et on a discuté tout à l'heure, et elle se souvient, aux États-Unis, du premier cours d'éducation sexuelle, Isha.
Oui, comme vous avez dit, je me souviens bien de mon cours d'éducation au cinquième grade. Alors, j'avais 11 ans, et on a parlé des règles, mais on n'a pas beaucoup parlé du sexe, sauf on nous a montré une vidéo d'une femme qui accouchait et un de nos copains a vomi. Hein?
Oui, alors, ce sont des tactiques de faire peur quand même, mais sans donner toute l'information. Mais oui, l'abstinence est essentiel, c'est essentiel, ça fait partie de l'éducation sexuelle, absolument. Mais c'est pas tout, et il faut une éducation complète.
Mais après, la question des âges, parce que c'est une question que tout parent se pose. Moi, j'ai un exemple d'une petite fille qui revient à la maison et qui m'explique tout ce qu'on lui a expliqué. Elle a 10 ans seulement, et puis elle a été très choquée, comme Isha quand elle était petite, très choquée par ce qu'elle a vu. Et en plus de ça, elle m'a dit, mais tout le monde était extrêmement choqué dans la classe. C'est-à-dire que, en somme, on a enseigné. Ma question sera la suivante. Est-ce qu'il est bien nécessaire d'aller dire aux petites filles de 10 ans comment bientôt elles vont se retrouver enceintes? Est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de présenter la chose?
Oui. Ben, en effet, l'UNESCO, en 2010, a développé avec d'autres agences des Nations Unies des principes directeurs internationaux qui guident sur les contenus appropriés à l'âge à donner pour l'éducation sexuelle. Et à ce niveau, les plus petits, en effet, oui, c'est approprié de parler de comment on devient enceinte, de la reproduction. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, on donne de plus en détail. Donc c'est une séquence de leçons qui commence plus simple et ça devient de plus en plus sophistiqué au fur et à mesure.
On imagine, c'est logique. Mais la question, justement, des conseils sur les préservatifs, comment se protéger, etc. Et là, c'est la grosse question aussi que tout le monde se pose, parce que on parle encore à des adolescents, des enfants. Alors certains n'ont que... À partir de quel âge on va expliquer à un adolescent comment utiliser un préservatif? C'est une question délicate quand même. Encore une fois, on parle de mineurs.
Ça dépend aussi du contexte et de ce qui va être acceptable au niveau du contexte. Parce qu'on sait que beaucoup de fois, les efforts pour faire une éducation sexuelle, soit au niveau scolaire ou hors de l'école, n'arrivent pas à réussir si on n'a pas l'engagement de la communauté, on n'a pas été sensible, n'est-ce pas, à la culture. Mais généralement, les plus petits, là même, c'est approprié de parler, de informer sur le fait qu'on peut prévenir les grossesses non désirées, on peut prévenir les infections sexuellement transmissibles. C'est pas forcément qu'on va démontrer l'utilisation d'un préservatif à l'âge de 5 ans, mais savoir que ça existe,
À l'âge de 5 ans, c'est nécessaire?
Oui, c'est possible. Ah bon, à l'âge de 5 ans, par exemple, ce qui est recommandé par les principes, là, c'est en ce qui concerne l'anatomie, par exemple, c'est juste connaître les différences entre le corps des filles et les garçons et de connaître ses parties privées, par exemple.
Et justement... aux États-Unis, je sais qu'il y a beaucoup de programmes comme ça qui sont très bénéfiques. C'est de la prévention aussi pour apprendre aux enfants à dire non, justement, à ne pas être abusés sexuellement.
C'est ça.
N'est-ce pas? À les protéger contre une certaine forme de violence sexuelle. Et ça, c'est important. Et surtout en Afrique, on peut revenir sur l'Afrique. exposez-nous quel type de programme vous conseillez, vous avez lancé et qu'est-ce qu'il ressort de tout ça?
Oui, en effet, si on parle par exemple des activités qu'on mène avec des partenaires au Burkina Faso, c'est pour... C'est pour les petits en CE2, CM1 et CM2, c'est-à-dire de 10 à 14 ans. Mm-hmm. On est en train de travailler avec des enseignants, des encadreurs pédagogiques.
Et le problème, surtout au Burkina Faso, c'est les grossesses précoces, n'est-ce
c'est
pas
ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, si les filles sont en train de tomber en grossesse à 12 ans, n'est-ce pas, ça, c'est forcément nécessaire qu'elles aient ces informations à temps. Qu'elles connaissent leur corps, qu'elles sachent comment on devient enceinte, mais aussi développer les capacités là de négociation, communiquer et de dire non aussi, n'est-ce pas, et de savoir des situations de risque, d'anticiper des possibles situations de risque pour savoir quoi faire pour éliminer le risque, pour minimiser quand même le risque.
Oui, ce type de cours très efficace, même un petit âge justement, parce que c'est le petit enfant qui a besoin d'être protégé contre ça. On lui dit, voilà, il y a un étranger qui s'approche de toi, eh bien, tu peux le repousser toi-même. Tu as ce pouvoir-là de non.
Et au Burkina, c'était les enseignants qui ont approché le projet, qui ont dit, s'il vous plaît, parce qu'on fait de l'éducation des pères pour les enfants hors de l'école, n'est-ce pas? On fait des capacitations des prestataires de services. Mais ils étaient engagés là de côté. Ils ont dit, s'il vous plaît, on veut pouvoir éduquer nos enfants à partir de l'âge de 10 ans sur la sexualité, la reproduction. Donc, ça venait de la communauté, ça aide beaucoup aussi. C'était les enseignants eux-mêmes qui cherchaient des matériels, des leçons, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. C'est des thématiques délicates, n'est-ce pas?
Il faut les aborder.
Oui.
On en est là, en fait. Et ça a commencé dans les années plus ou moins 90. Et donc, c'est des méthodes qui s'améliorent au fil du temps, parce que c'est délicat, c'est toujours délicat. Oui. On est confronté aussi à la culture. J'ai relevé qu'une étude de l'Institut Guttmacher, en 2011, avec lequel vous travaillez, montre que 89% des adolescents utilisent Internet comme première source d'information pour répondre à leurs questions sur la santé sexuelle. Alors, c'est quand même bien la preuve qu'il y a un besoin, une demande pressante, quoi.
Oui, c'est ça. Le besoin est énorme et bon, il faut toujours explorer toutes les stratégies possibles pour pour faire l'éducation sexuelle. Malheureusement, souvent, c'est à travers les médias, soit l'Internet ou les autres, que les jeunes aussi, il y a des informations qui sont pas correctes, qu'on reçoit à travers, par exemple, l'Internet.
Oui, c'est dangereux aussi, oui, bien sûr.
Donc, c'est pour ça aussi que ça souligne le rôle tellement important qui peuvent jouer les écoles pour donner l'information correcte, précise, scientifique.
Et justement, parlez-nous de votre campagne « Our Moment » avant de nous quitter.
Ah, d'accord. Dans un cadre, disons, d'une perspective plus globale, on a une campagne qui s'appelle « Our Moment », notre moment, qui s'agit d'essayer de élever l'importance des droits de filles en ce qui concerne leur éducation, leur santé reproductive et sexuelle, aussi leur sécurité par exemple, leur capacité d'avoir un emploi, de participer dans leur pays. Étant donné que maintenant c'est les objectifs là au niveau global de développement qui se sont en train d'élaborer. Puisque l'éducation sexuelle est tellement importante, c'est vraiment... C'est un moment très important maintenant pour assurer que c'est une priorité au niveau global pour le développement. Et les filles, comme elles sont plus vulnérables.
Et justement, je voudrais relever une phrase que j'ai encore prise sur votre site par rapport à cette campagne. Elle illustre très bien. Donc, elle dit, c'est Rachel, une de vos membres qui l'avait écrite. Les filles doivent avoir accès à la santé, donc y compris l'éducation sexuelle, à l'information et à tous les services nécessaires pour les doter de la confiance dont elles ont besoin pour une transition saine vers l'âge adulte. Et ça, effectivement. on comprend bien à quel point c'est important. Merci beaucoup Nicole Chitam. Je rappelle que vous êtes directrice de la Division internationale des droits et de la santé des jeunes à Advocates for Youth. À très bientôt. Au revoir.
Let's go.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You're out. Right.